France Inter.
Le journal avec Céline Asselot. Bonjour Céline.
Bonjour à tous. Ils ont passé une nuit blanche, ils ont discuté jusqu'à la dernière minute, mais c'est sur un constat d'échec qu'ils se séparent. À Genève, les participants au sommet contre la pollution plastique n'ont pas réussi à trouver un consensus. Et certains y voient la preuve que les grandes négociations internationales ne servent plus à grand chose. Est-ce en Alaska que va se décider l'avenir de l'Ukraine ? Donald Trump et Vladimir Poutine y sont attendus ce soir pour ces discussions qui pourraient porter aussi, et peut-être surtout, sur les questions économiques, on prendra la direction de Moscou. L'actualité de ce 15 août, c'est aussi la canicule qui se poursuit encore et toujours. 70 départements en vigilance orange et ça commence à être long. Reportage à Bordeaux. On ira à Notre-Dame de Paris où l'on célèbre l'Assomption pour la première fois depuis la réouverture. On entendra aussi la colère des dermatos. Ils sont trop peu nombreux, disent-ils. Estiment que le nombre d'internes en formation est trop restreint. Et puis c'est la nouvelle sensation du tennis français. Terence Atman, 136e mondial, est en train de tout gagner au tournoi de Cincinnati aux États-Unis. Un joueur, on le verra, au profil plutôt atypique.
France Inter.
Après la COP29 et son bilan jugé très décevant, après la conférence sur la biodiversité et son accord arraché dans la douleur, voilà donc un nouveau rendez-vous au sommet qui semble montrer les limites du multilatéralisme. À Genève, il n'y aura pas de traité mondial pour réduire la pollution plastique. Les 184 pays participants se séparent sur un constat d'échec. L'ambition des uns s'est heurtée à la résistance de quelques autres, regrette la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher.
Je suis en colère et je suis déçue. Plus d'une centaine de pays, des 5 continents, pays développés, pays en développement, étaient quasiment d'accord pour adopter un texte ambitieux pour réduire la pollution plastique. Et cette négociation a été freinée par une poignée de pays qui sont essentiellement des producteurs d'énergie fossile, un peu des producteurs de plastique. Et je trouve ça inacceptable alors qu'on sait que la pollution plastique est un enjeu environnemental majeur. C'est une bombe à retardement pour la santé humaine.
Bonjour Célia Kilry.
Bonjour Céline.
Vous êtes en direct de Genève, on entend la déception, le constat d'impuissance même de la France. Est-ce que l'on vient de vivre, est-ce que c'est l'échec des négociations multilatérales et des Nations Unies ?
Oui, en tout cas, les discussions ont été malmenées ces deux dernières semaines. L'ONU n'a pas réussi à créer le consensus. Aucun texte proposé n'a été à la hauteur de l'enjeu. Et c'est donc une victoire des pays du Golfe et des États-Unis, regrette Cheikh Sila, le négociateur sénégalais.
Il y a un grand problème sur le multilatéralisme parce qu'on se rend compte que sur toutes les dernières conventions, les derniers traités sur l'environnement, il y a trop d'intérêts économiques, trop d'intérêts politiques. Bon, ce qui fait qu'on oublie l'environnement et on traite l'économie. Et ça, on le voit dans le climat, dans la biodiversité. On sait maintenant comment bloquer, quoi. Il faut améliorer à l'avenir. Il faut maintenant réfléchir, s'asseoir et revoir comment reprendre nos stratégies. Celle-ci n'a pas marché.
La règle du consensus a donc échoué au détriment de l'environnement. En principe, les États se retrouveront pour une prochaine session de négociation, pas avant 2026. Mais un nouvel échec est possible, dans les mêmes conditions, pour le ministre belge de l'Environnement, Jean-Luc Cruc.
C'est un risque qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais en même temps, on a quand même vu plus d'une centaine de pays qui se sont réunis sur des objectifs forts. Et donc c'est plus un signal vers l'avenir en disant à ceux qui aujourd'hui ne pensent qu'à la production de pétrole et aux richesses matérielles, l'argent que produit ce pétrole, si vous faites crever la planète, votre argent ne servira à rien. Et donc je crois que plus que jamais aujourd'hui, tous ceux qui sont fâchés parce qu'il n'y a pas d'accord sont encore plus décidés de trouver un accord demain.
Et en effet, au-delà de cette occasion manquée, de cet échec historique de Genève, plus de 120 pays sont prêts, plus que jamais, à signer un accord, selon certains observateurs et ONG. Ils pourraient le voter seuls, sans les pays pétroliers. Ce serait peut-être la seule solution face à l'urgence de la pollution plastique.
Merci, Célia Kilry, en direct de Genève, avec Christophe Papon pour les moyens techniques. Et signe décidément que la diplomatie est en train de changer de visage. Ce n'est pas un grand sommet international qui s'ouvre aujourd'hui pour parler de l'avenir de l'Ukraine, mais un tête-à-tête. Donald Trump et Vladimir Poutine sont attendus qu'en quelques heures en Alaska, sans les Européens, sans les Ukrainiens, avec l'objectif affiché de parvenir à un accord. Et visiblement, Jean-Didier Revoin, vous êtes à Moscou, le président américain dispose d'arguments susceptibles d'infléchir la position du dirigeant russe.
Et pour s'en convaincre, il suffit de regarder la composition de la délégation russe qui se rend aujourd'hui à Anchorage. La présence du ministre des Finances et du patron du Fonds souverain démontre l'importance accordée au développement des relations économiques entre Moscou et Washington, à l'heure où l'économie russe donne de premiers signes de faiblesse. Et en matière économique, les deux pays ont des intérêts convergents dans plusieurs secteurs, à commencer par l'Arctique, où justement se tient ce sommet. On évoque ici le développement de projets conjoints, qu'il s'agisse de navigation, voire d'extraction de matières premières. La reprise des vols commerciaux entre les deux pays ou l'autorisation de survol de la Russie pour les avions de ligne américains est aussi discutée. Les traités sur les armes nucléaires, dont Moscou s'est retiré à la suite de Washington, seront également abordés. Autant de sujets certes bilatéraux où Moscou veut avancer. L'auteur de l'art du deal devra donc souffler le chaud et le froid sur les dossiers qui intéressent la Russie pour obtenir en contrepartie des concessions sur l'Ukraine de la part du président russe. Moscou, Jean-Didier Revoin, France Inter.
C'est donc une rencontre qui pourrait être cruciale pour l'Ukraine jusqu'au bout. Volodymyr Zelensky avait espéré recevoir son carton d'invitation. Les 27 avaient réclamé sa présence. Les Ukrainiens d'Alaska également, car dans ce territoire nord-américain, un millier d'Ukrainiens sont installés depuis le début du conflit. Ils ont manifesté à plusieurs reprises ces derniers jours. Reportage sur place de Sandrine Etoandeg et Eric Audra.
En voyant tous ces drapeaux bleus et jaunes, comme celui qu'elle a noué sur ses épaules, agités le long de cette autoroute d'une zone commerciale d'Anchorage, Ekaterina n'a pu s'empêcher de pleurer. Mon cœur déborde de reconnaissance devant toutes ces personnes venues en soutien. Tous ces gens d'Alaska sont là et nous montrent que nous ne sommes pas seuls. Elle et son mari Alexander viennent de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, à la frontière avec la Russie, à l'offensive dans la région. Ça fait un peu moins de 3 ans qu'ils vivent en Alaska, où leur fille d'un an est née, loin des bombardements. Ici, on se sent en sécurité, protégé, heureux. Et aujourd'hui, il arrive. Souffle-t-elle en parlant de Vladimir Poutine. Ce sont des sentiments partagés, de la peur, de la colère et une grande douleur. Surtout quand elle pense au quotidien de sa famille restée là-bas. Pour son conjoint, Poutine est un criminel que personne ne veut rencontrer, mais le président américain lui ouvre grand les portes. Espérons que ça apporte quelque chose. Que notre pays ne sera pas découpé en morceaux, ajoute Ekaterina, amère, mais à l'écoute de cette fanfare. Ekaterina sourit.
Sandrine Etoandeg et Eric Audra, envoyés spéciaux de France Inter en Alaska. Et pendant ce temps, les combats se poursuivent. Des drones ukrainiens ont frappé une raffinerie de pétrole russe la nuit dernière. C'est un projet qui viole le droit international, selon l'Europe, qui mettrait fin aux perspectives d'une solution à deux États, selon les Nations Unies. La communauté internationale condamne fermement le projet de colonisation présenté par un ministre israélien d'extrême droite. Un plan de construction majeur qui pourrait couper en deux le territoire de la Cisjordanie. Jordanie occupée. Précision depuis Ramallah d'Alice Moreno.
Le projet de construction que souhaite Bezalel Smotrich est massif. 3400 logements qui constitueraient une colonie gigantesque à l'est de Jérusalem en plein cœur du territoire palestinien. S'il est acté, ce projet totalement illégal au regard du droit international risquerait de couper le territoire de la Cisjordanie en deux. Le nord et le sud seraient alors divisés. En ressortant ce projet du tiroir gelé depuis 2021, le ministre d'extrême droite veut précisément rendre impossible la concrétisation d'un État palestinien souverain et répondre aux récentes déclarations de certains États occidentaux qui veulent reconnaître un État de Palestine. Il a fait ses annonces hier lors d'un déplacement dans une colonie de Cisjordanie. Si vous reconnaissez un État palestinien en septembre, notre réponse sera l'application de la souveraineté israélienne, a-t-il prévenu. En mai dernier, déjà, le gouvernement israélien a approuvé la construction de 22 colonies illégales en Cisjordanie. Ramallah, Alice Moreno, France Inter.
Et c'est dans ce contexte de guerre au Proche-Orient que la classe politique s'indigne en France. L'arbre planté en mémoire d'Ilyan Halimi à Épinay-sur-Seine a été abattu dans la nuit de mercredi à jeudi. François Bayrou dénonce un acte lié à la haine antisémite. Le CRIF y voit une réaffirmation violente de l'antisémitisme. Ce jeune homme de 23 ans avait été torturé, assassiné par le gang des barbares. C'était en 2006. La nation n'oubliera pas cet enfant de France mort parce que juif, assure
Emmanuel Macron, qui précise que tous les moyens seront déployés pour punir cet acte de haine. De son côté, Bruno Retailleau annonce sur le réseau social X que des personnes ont tenté de mettre le feu à une salle de prière musulmane à Châtillon-sur-Seine, en Côte d'Or. Mes pensées vont faire les fidèles heurtés par cet acte anti-musulman d'une grande lâcheté, poursuit le ministre de l'Intérieur.
France Inter, le journal de 13h, Céline Asselot.
Des mois d'attente, des secrétariats impossibles à joindre, des praticiens qui refusent les nouveaux patients. Si vous avez tenté de prendre rendez-vous chez un dermato ces derniers temps, vous savez que ça ressemble parfois à un parcours du combattant. Et pour cause, il y avait 4000 dermatologues il y a 10 ans contre 2900 aujourd'hui. Et ça ne risque pas de s'arranger. Seuls 102 internes vont pouvoir rejoindre la spécialité dermatologie à la rentrée. Les quotas ont été publiés il y a quelques jours. C'est bien trop peu, affirme Luc Sulimovic, président du syndicat national des dermatologues.
Quand on regarde les demandes des patients, quand on regarde effectivement la campagne médiatique que l'on a eue vis-à-vis du nombre de rendez-vous disponibles en dermatologie, on comprend mal cette diminution du nombre d'internes, alors qu'il faudrait nettement l'augmenter, puisque la perspective pour former un interne lorsqu'il fait son cursus plus son clinica, c'est 6-7 ans. Donc ça, c'est la perspective à moyen et long terme. Actuellement, plus de 50% des dermatologues sont au cumul emploi-retraite. L'âge moyen d'un dermatologue, c'est 59 ans actuellement en France. Donc c'est aussi important que l'on puisse répondre immédiatement au rendez-vous et l'on s'organise dans ce que l'on appelle les équipes de soins spécialisées en dermatologie vénérologie, mais aussi que l'on arrête d'attaquer les dermatologues car nous faisons aussi ce que nous pouvons pour l'actuel, mais aussi il faut que les pouvoirs publics prennent la décision d'augmenter notablement le nombre d'internes.
Luc Sulimovic, président du syndicat national des dermatologues, au micro de Victor Dolande. La carte de France encore en jaune et en orange aujourd'hui. 70 départements, vigilance orange à la canicule. On va faire le point sur les prévisions météo dans quelques minutes et ça commence à être long pour les habitants concernés. Tout l'enjeu est de ne pas relâcher la vigilance, notamment pour les personnes les plus fragiles. Reportage à Bordeaux, signé Erwan Chassin.
Peu importe la chaleur, peu importe la fatigue, Valentin se mobilise depuis le début de cette canicule au sein de la réserve citoyenne de Bordeaux.
Oui, bonjour madame, je vous appelle. Pour
ce bénévole appelle inlassablement des personnes âgées seules, souffrant parfois de handicap ou malades.
J'ai jamais trop soif, quoi. Mais bon, j'essaye.
Il faut le faire. Vous savez ce qu'on dit, c'est un verre d'eau par heure.
Et même après des heures passées au téléphone, il prend toujours le temps de discuter, de déceler de potentielles difficultés.
Savoir s'ils ne souffrent pas trop de la chaleur, s'ils n'ont pas de besoins spécifiques. Je leur indique, le cas échéant, la localisation des échoppes seniors, en fait, des espaces de proximité climatisées.
Je vais regarder le thermomètre. Il y a 31.
À l'intérieur de votre logement ?
Oui.
Donc effectivement, c'est très chaud. C'est important de consacrer du temps, voilà, moi-même, sur un jour de congé. Pour nos aînés, qui se rendent compte que non, ces personnes ne sont pas toutes seules.
Plus d'une dizaine de personnes bénévoles ou non font le même travail que Valentin depuis le début de cette canicule dans la cité municipale. En tout, 3600 Bordelais sont identifiés comme fragiles par la mairie, dont près de 900 personnes âgées isolées.
Elles reçoivent dès qu'il y a une alerte un petit message vocal qui leur appelle les consignes à tenir, les conseils, etc.
Stéphane Pfeiffer est adjoint au maire de Bordeaux.
Et on appelle aussi tous les jours 100-150 personnes qui sont considérées comme étant particulièrement vulnérables, de manière à conserver un lien social, vérifier qu'elles aillent bien.
Vigilance renforcée également dans les EHPAD et les résidences autonomie.
Erwan Chassin à Bordeaux pour France Inter. De la chaleur aussi sur le parvis de Notre-Dame de Paris, où les touristes sont nombreux à venir admirer la cathédrale restaurée. 7 millions de visiteurs depuis la réouverture. Et ce 15 août est un jour bien particulier. Première fête de l'Assomption depuis l'incendie de 2019. Alexandre Berthaud, vous êtes sur place et on sent bien que c'est une journée spéciale.
Absolument, Céline, ça se sentait notamment ce matin avec une très très longue file d'attente pour la messe. Une messe à 10h, l'autre à 11h30, pas de réservation possible. Cette touriste mexicaine est donc arrivée une heure à l'avance.
We are here for holidays.
On est en vacances, mais on sait que c'est un grand jour pour les catholiques. On est catholiques. Et maintenant qu'on est là, on s'est organisé pour assister à cette messe. On est arrivé plus tôt ce matin pour pouvoir entrer.
In order to get into the church.
La messe à Notre-Dame attire environ 700 fidèles en moyenne depuis la réouverture. C'est beaucoup, mais moins que ce matin. Les deux offices ont rempli la jauge, 3000 personnes. Alors évidemment, dans la file d'attente, quelques grognements à cause de ceux qui doublent.
Regardez, hop, 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 hop.
Nathan et toute sa famille normande ont pu rentrer.
On s'est dit que ça pouvait être une bonne occasion pour aller voir la cathédrale Notre-Dame. On est chrétiens, donc c'est important pour nous aussi d'assister à ce genre de célébration.
Et puis quand même, à Notre-Dame de Paris, on trouve aussi des Parisiens. Alain, particulièrement ému.
J'ai suivi un petit peu les travaux et aujourd'hui, donc, comme c'est une journée mariale, ça donne une signification supplémentaire.
L'avantage matinal de Notre-Dame, c'est l'ombre que ces tours projettent sur le parvis, maintenant quasiment en plein soleil pour la procession à venir à 15h45 en extérieur.
Alexandre Berthaud, merci. Sur le parvis de Notre-Dame de Paris, en Corse, la gendarmerie de Sartène a été la cible hier soir de tirs sur la façade. Pas de victimes et une enquête a été ouverte. Le parquet d'Ajaccio cherche à savoir s'il s'agit de tirs délibérés ou bien de tirs festifs liés aux célébrations du 15 août. À 13h15, on en vient à ce classement, certes critiqué, mais très attendu tout de même chaque année dans le monde de l'enseignement supérieur. Le classement de Shanghai qui liste les 1000 meilleures universités de la planète. Alors comme toujours, ce sont les Américaines qui sont en tête du classement. Harvard, le MIT, Princeton, la première française, est à la 13e place. Il s'agit de Paris-Saclay. Bonjour Luc Chemelin.
Bonjour.
Alors on peut aussi citer l'université Paris Sciences Lettres, 34e. Sorbonne Université, 43e. On pourrait dire bien, mais peut mieux faire. Qu'est-ce qui manque finalement aux universités françaises pour faire jeu égal avec les Américaines?
Eh bien, il y a déjà un écart colossal de budget. Prenez par exemple celui de l'université Paris-Saclay. Il est de 560 millions multipliés par 15, voire même 20 pour avoir le budget des universités américaines, détaille son président, ce qui permet évidemment d'avoir davantage de moyens pour la recherche et c'est ce qui compte le plus dans ce palmarès et non la formation. Ensuite, il y a aussi des particularités qui ne les avantagent pas. Dans le domaine des lettres, par exemple les sciences humaines, les publications en français ne sont pas toujours prises en compte. Pour autant, le top 10 n'est pas forcément inatteignable, mais il faudra beaucoup, beaucoup de temps, assure Camille Galap, le président de Paris-Saclay, qui ajoute que certains partenariats pourront peut-être faire la différence.
Nous avons signé une entente avec l'université d'Oxford et de Cambridge dans le secteur de l'intelligence artificielle. Ça nous donne de la visibilité au niveau international et pour le coup, je pense que dans les années qui viennent, on aura de plus en plus de chercheurs qui viendront à l'université Paris-Saclay conforter et apporter davantage de publications dans ce domaine.
Notamment dans les revues Science et Nature qui sont un critère dans le classement. En tout cas aujourd'hui, impossible de savoir si l'accueil par des universités françaises de chercheurs américains malmenés par Donald Trump aura un impact. De son côté, un représentant de France Université qui porte la voix des dirigeants d'établissements alerte sur le fait que la part de la France dans la production scientifique continue de décroître et appelle à des investissements dans la recherche.
Merci Luc Chemelin, service économie de France Inter. Et puis s'il y avait un classement des plus grandes surprises sportives de l'année, sans doute pourrait-il intégrer directement le top 10. Le tennisman français Terence Atman est en train de réaliser un sacré exploit de l'autre côté de l'Atlantique. Le joueur a 23 ans, 136e mondial inconnu du grand public il y a encore quelques heures. Eh bien, il s'est hissé en demi-finale du Masters 1000 de Cincinnati en battant le numéro 9 mondial, le Danois Holger Rune. Bonjour Thomas Lavaux.
Bonjour.
On voit que la sensation continue.
Oui, lui qui n'avait jamais battu de joueur du top 20 mondial avant cette semaine. Il vient d'en faire tomber un second en l'espace de 24 heures et sans trembler. Terence Atman lui-même semble avoir du mal à y croire.
Je pense que désormais plus rien ne peut m'arriver. Je ne peux pas dire ce que je ressens. Enfin, c'est fou ce qu'il s'est passé, être là au Masters 1000 de Cincinnati, aller en demi-finale. Pour être honnête, je n'y crois pas.
La sensation continue, une vraie sensation de par son service très spécifique. Il frappe la balle très tôt après l'avoir lancée sur la phase ascendante. Son coup droit lifté est très puissant et puis de par son comportement, Terence Atman est HPI au potentiel intellectuel. Son QI est de 158, ce qui l'a parfois desservi. Mais l'arrivée de son entraîneur lui permet désormais de se canaliser sur le court, explique le président de son club à Boulogne-sur-Mer, Franck Pack.
Terence, c'est quelqu'un qui veut gagner très vite les points et je pense que grâce à l'arrivée de son traîneur Guillaume Père, qui l'a stabilisé au niveau du mental et lui a dit maintenant il va falloir ok, tu te concentres sur le point d'après parce que ça sert à rien de donner de l'énergie négative à tes adversaires.
Alors Terence Atman, peut-il atteindre la finale à Cincinnati? Il devra renverser une nouvelle montagne en demi-finale. Le numéro 1 mondial, Yannick Sinner.
Rien que ça. Merci Thomas Lavaux. Match à suivre dans la nuit de samedi à dimanche. Et on vous donnera bien sûr les résultats sur France Inter. Tout de suite la météo.
La météo avec la MAE. À l'école ou en vacances, l'assurance scolaire MAE protège vos enfants par tous les temps. MAE, grandir avec assurance.
Bonjour Olivier Proust.
Bonjour Céline.
Et on note une nouvelle hausse très nette des températures dans l'Ouest.
Avec une nouvelle journée caniculaire sur les deux tiers sud du pays et cette fois jusque sur toute la façade atlantique. On attend des pointes à 39, 40, voire 41 degrés de l'Occitanie à la Nouvelle-Aquitaine. Il fera 32, 33 degrés jusque dans le sud Finistère. Du Berry à la Bourgogne et Grand Est, on attend 34, 37 degrés et 36 à 39 de Lyon à la Méditerranée sous un mistral modéré en vallée du Rhône. Mais dans le le nord grâce à un léger vent de nord-nord-est. Il fera moins chaud du bassin parisien et des côtes de la Manche vers la Belgique avec 25 à 32 degrés.
Et tout ça, Olivier, sous un soleil de plomb, toujours.
Oui, le ciel deviendra quand même un peu plus variable cet après-midi dans l'est et en montagne où le risque orageux persiste. Ce risque orageux sera plus faible qu'hier entre la Haute-Provence et la Corse et près de l'océan et en Bretagne. Le ciel est parfois laiteux en marge des fumées d'incendie qui remontent dans le golfe de Gascogne. Demain, peu de changements. Les températures de l'après-midi resteront du même ordre après une nuit souvent encore un peu plus chaude. Mais dans le nord-est, elles poursuivront leur baisse, redeviendront plus respirables dès demain.
Merci Olivier Proust de Météo France.